génération in ou génération out. Nous allons lire un texte dans Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. La vigne du Seigneur. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait? J'espérais d'elle de beaux raisins. Elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant, je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague. Personne pour la tailler, personne pour l'entretenir. Épinérance y pousseront et l'interdiraient aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout injustice et passe-droit. Ils escomptaient la loyauté, mais c'est partout cri de détresse et déloyauté. Amen. Chers amis, l'Éternel a toujours une façon originale, je trouve, selon moi, de s'adresser à son peuple. Surtout quand il veut lui faire un reproche ou faire quelques ajustements. Notre Dieu, il a un tact magnifique. Un tact qui ne blesse pas la personne, tout en donnant le vrai message, la correction qu'il veut faire comprendre. Comme ici, dans notre péricope aujourd'hui, le prophète, lui, il a fait un chant pour s'adresser au peuple d'Israël. Vous imaginez un prophète qui chante. Et ce n'est pas tout. Non seulement il fit un chant, mais l'approche qui a été faite est interpellante. Il a fait une sorte d'histoire avec une invitation à répondre à une question. Et cette question posée par le prophète sous une forme de chant amène la population, le peuple qui était là, à faire un constat sur lui-même. Ce n'est pas le prophète qui fait un constat, c'est l'auditeur qui se fait un constat. Auto-évaluation en écoutant le chant. Intéressant comme système de communication. Ce chant, normalement, devrait être un chant des vendangeurs. Hein, les vendangeurs, quand ils sont dans les vignes, avec beaucoup de gaieté, de joie, ils sont tous en liesse, foulant la vigne dans le pressoir, et ils chantent. Et c'est ça que le prophète a pris. Et nous connaissons les ambiances qui règnent dans les vignes, même ici en Europe, ce qui se passe pendant les vendanges. Chaque soir, tout le monde s'assied autour d'un feu, on mange, on boit, on rigole, on s'amuse. Et c'est justement à ce moment-là, après le repas, que le prophète prend son instrument et commence à chanter. Donc tout le monde était vraiment attentif au prophète. Ce n'était pas au moment d'un culte au temple, comme aujourd'hui, mais lors d'un moment festif. Et c'est précisément à ce moment-là que Ésaïe a pris la parole. Et vu le contenu du chant qu'il a fait, on peut dire que le message était quand même assez triste. Pourtant, c'est un moment festif. Mais les gens étaient attentifs, ils étaient à l'écoute. Et moi, en préparant cette méditation dominicale, j'ai constaté que finalement, je trouve que le message de la Bible n'a jamais été ringard comme on le croit. On a souvent la tendance de croire à cela. L'Éternel sait parler aux gens en utilisant des chants, des petites histoires qui font réfléchir, mais avec un message clair et net qui va tout droit au cœur, sans ambiguïté. Le style du message d'Ésaïe est similaire, je crois, à la façon dont Nathan, rappelez-vous du prophète Nathan, qui un jour est venu vers David pour dire ses péchés. Il s'est adressé à David pour lui déclarer les quatre vérités sur les fautes que le roi David a commises. C'était quoi ? Prendre la femme d'Uri par ruse et faire assassiner indirectement l'époux devant la bataille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Nathan avait inventé une jolie petite histoire. Et le roi, qui est un poète, un artiste, il était « Ah, c'est bien comme histoire !» Il avait inventé une jolie petite histoire, comme on fait aux enfants, au culte des enfants, bien sûr. Or, il s'adresse à un grand roi, celui qui a vaincu Goliath, le géant. Ça, il faut se rappeler aussi. Il faut oser quand même. Pour résumer l'histoire, voilà ce qu'il a dit. Il y avait deux hommes, cher roi, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre, mais le pauvre n'avait rien du tout sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Et ce pauvre l'avait même considéré comme sa propre fille, puisqu'elle mangeait avec son maître. Il donnait son pain. Mais un beau jour, un voyageur est passé. C'était le riche. Et il voulait se nourrir, il avait faim. Et quand il avait faim, il a vu la brebis du pauvre et l'a voulu prendre pour son repas. Juste par caprice. En entendant cela, le roi David est fou furieux qui se leva de son trône. Il dit « Injustice ! Présentez-moi ce monsieur, je vais le mettre à mort. » Et là, Nathan a rigolé. « C'est toi, ce monsieur, cher roi. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est juste une petite histoire racontée pour lui faire comprendre dans sa chair à quel point il a fait du mal. C'est lui-même qui a fait le constat par lui-même. Et c'est ça la vraie repentance. Ce n'est pas juste de dire « Pardonne-moi Seigneur » comme une récitation, comme on le fait chaque jour avant de se coucher parce qu'on a peur d'aller en enfer. Mais c'est vraiment une conscientisation profonde. C'est injuste ce qui s'est passé. Et là je trouve, chers amis, que le but du message est réussi. C'est lorsque les gens ressentent en eux au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils ont fait sont dégueulasses. Le message est compris. Ce n'est pas un discours moralisant, non. Le prophète n'est pas là pour donner une leçon de morale, pas du tout. Il est venu pour apporter une glace. Regarde-toi. C'est toi ça. Ce n'est pas un discours de morale, mais c'est vraiment une expérience de vie. Et c'est exactement la même chose qu'Ésaïe avait fait ici. Une fois que ces vendangeurs étaient rassasiés de nourriture, rassasiés de bon vin, à la limite, un peu ivre, le message qu'adressait le prophète à travers ce chant et cette petite histoire donne un sentiment de révolte. Ils viennent de constater par eux-mêmes que ce beau vin qu'ils sont en train de boire risquerait de ne plus être reproduit, car il y a une mise en garde de dégradation de la qualité. Oui, vous êtes en train de vous enivrer avec ce beau vin, mais demain il n'y en aura plus, puisque ce vin, les raisins, ne sont plus de bonne qualité. Et donc ils sont quelque part inquiets et soucieux de cela. Mais au final, le message du prophète ne concerne pas du tout la vigne, mais c'était une façon d'aborder le sujet. On appelle ça en théologie un accrochage pour capter l'attention des gens. Le prophète semble faire un constat, une évaluation que ce peuple d'Israël ne cesse de regresser de génération en génération. Verset 7. La maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient, dit l'Éternel. Il espérait l'équité et voici le crime. La justice et voici les cris des victimes. C'est le constat amer que Dieu faisait. Le prophète déplore la dégradation du royaume d'Israël après David. Parce que celui-ci, David, lui, c'était le beau plan de Dieu. Celui-ci, malgré ses faiblesses, il se souciait de la justice et de l'équité en Israël. Je vais vous donner un exemple concret au temps de David. Il a préservé les fils de Saül, Saül qui se dressait comme son ennemi, et il a gardé tous ses fils. Pourtant, ce dernier lui en voulait. Les fils de Saül mangeaient tout de même à la table de David pendant qu'il régnait. Vous voyez quel genre d'individu est-ce, ce monsieur? Mais après Salomon, Israël s'est déchiré en deux. Le nord, Israël, et le sud, Juda. Deux frères ennemis. Et ce n'est pas tout. Si vous lisez les livres des rois, des chroniques, les descendants de David qui se sont succédés n'ont fait que du mal et de pire en pire. Ils ont fait du mal à chaque changement de roi. C'est catastrophique. Parfois même il y avait des rois qui ne régnaient que quelques jours. D'où le sens de la phrase du verset 2. Il y avait mis un plan de choix, c'est-à-dire David, ou un cépage de choix, pourtant le fruit est décevant. Comment ça se fait? C'est une plante de qualité que j'ai plantée. Or, les fruits étaient décevants. Et c'est le Seigneur lui-même en personne qui a dit, le Seigneur s'est choisi un homme, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir, à son cœur. Il l'a désigné comme chef de son peuple, David. Voilà ce que Dieu voulait. Et même l'Éternel, lui, il a promis que son règne durera éternellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est pour cette raison que le prophète, au verset 4, rapporte la tristesse du Seigneur. En voyant ce que les descendants de David sont devenus, le peuple d'Israël, ce peuple en fait de cette élection, de ce choix de Dieu, comme rien du tout. Le constat que l'Éternel fait est très frappant quand il parle de « Quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puantes ?» C'est dur. Dieu qui est déçu. C'est là le grand problème de ce peuple d'Israël. Tout ce que l'Éternel a fait pour lui semble devenir un obstacle pour avoir la foi et reconnaître son Dieu. Et nous pouvons voir cela avec l'échange que Jésus avait fait avec les pharisiens qui se déclaraient qu'ils n'étaient pas les fils d'esclaves, en faisant allusion à Ismaël, fils d'une esclave égyptienne. Ils étaient orgueilleux en se disant qu'ils étaient les héritiers légaux d'Abraham. Mais voici ce que Jésus avait répondu. Je vous le déclare, que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. Alors, s'ils étaient vraiment des enfants d'Abraham, disait Jésus, ils devaient croire en lui. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, comme dit les Saintes Écritures. Et pourtant, même si Dieu avait fait ces déclarations qui marquaient sa tristesse, le Seigneur reste fidèle. Il reste fidèle à la parole qu'il a dit à David. « Ton règne durera éternellement. » C'est toujours dans ce livre d'Ésaïe, chers frères et sœurs, que le Seigneur dit aussi « Je protégerai quand même Jérusalem et je la sauverai parce que je suis Dieu et par fidélité à David, mon serviteur. » Moi, je tiens à ça. Si Dieu a fait alliance avec toi, il sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ta génération future. Il se peut que nos enfants vont nous décevoir. Il se peut que nos enfants ne suivront pas l'exemple que nous avons donné. Mais moi, ce que je sais, Dieu est fidèle à David. Il aurait pu faire disparaître les deux petits royaumes, Benjamin et Juda, mais il dit, par fidélité à David, je protégerai Jérusalem. Et après le message de destruction, Dieu promet toujours la renaissance. Il utilise toujours des expressions sur la plante, bien sûr. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Un rejeton pousse de ses racines. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Et c'est qui ce rameau? Jésus-Christ. À travers cette génération qui était dure, difficile, un roi va naître. Et celui-là, il est bon. Même si notre génération est une génération inquiétante, Dieu est fidèle à l'engagement qu'il nous a fait. Amen.